Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission pour les programmeurs qui veulent vivre une carrière épanouissante. Prêt à passer au niveau supérieur ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Lemaire. Arnaud, bonjour.
Hello.
J'adore ton esprit de synthèse. Est-ce que tu peux quand même te présenter en plus de quatre mots pour les auditeurs, s'il te plaît ?
Alors, c'était un mot, ouais. Alors, moi, c'est Arnaud Lemaire, Atli Lobaz. Je suis développeur, basiquement. Sur un peu plein de choses, et on peut me retrouver sur Twitter ou sur lilobaz.me.
Cool, merci. Alors tu m'as proposé un sujet, je sais pas de quoi on va parler, hein, mais le sujet m'a vachement plu, donc allons-y. Pour moi, les doudous, ça me parle, tu me disais, la base de données, enfin redis-moi le sujet que tu m'as proposé.
Ouais, en fait, c'est une discussion qui revient régulièrement, c'est une image que j'utilise assez souvent, et c'est revenu encore hier dans une discussion, c'est la base de données, en fait, c'est un vrai doudou pour développeurs.
Vas-y, exprime, parce que moi je vois bien ce que c'est un doudou, et là je crois que j'ai enfin trouvé le doudou de ma fille à 2 ans, donc je commence à retrouver des nuits, je vais dire presque normales. C'est quoi le doudou des développeurs ? Ça le rassure émotionnellement ? C'est quoi le truc ?
C'est ça, en fait, c'est un objet de réassurance incroyable, en fait, et on s'en rend compte quand justement on intervient dans des équipes et qu'on commence à leur parler de cohérence à terme, de dénormalisation des données, on sent qu'il y a une crispation qui arrive chez les gens, et il y a une espèce de gêne comme ça qui monte, jusqu'à... Alors, des fois, ils n'arrivent pas à l'exprimer, des fois, ça explose, et ils se demandent, oui, mais comment est-ce que je fais pour mes transactions ? Comment est-ce que je fais pour ma base de données ? Comment est-ce que... Et tu les sens paniquer. Parce qu'en fait, tu as touché à un des rares trucs auxquels ils sont habitués, qu'ils marchent un petit peu du premier coup, c'est leur schéma de base de données. C'est-à-dire qu'ils savent qu'au niveau applicatif, souvent, ça peut être un dawa monumental, mais les développeurs ont cette espèce de réassurance que, ouais, mais au moins, c'est dans la base de données, j'ai fait ma transaction, il peut se passer n'importe quoi autour, si ma base de données va bien, le reste va bien. Et donc, quand tu commences à toucher à cet objet, et quand tu commences effectivement à aborder ce genre de choses, tu sens un petit peu cette tension apparaître dans les équipes, et c'est quelque chose qui est souvent assez difficile à faire perdre dans un premier temps.
Alors moi j'ai une anecdote personnelle qui date d'il y a quelques jours, donc elle est encore très fraîche. Je discute avec une copine entrepreneuse, elle me présente son développeur, on discute un petit peu, on essaye de voir si je peux les aider à prendre du recul, enfin je sais pas, à faire un truc, voir comment je peux les conseiller un petit peu. Et justement, au moment de parler de la base de données, on parle à un moment donné, la nana me dit « Ah oui, puis on a là, cette base, c'est du NoSQL, est-ce que tu sais ce que c'est ce truc ?» Je dis « Bah ouais, c'est de la donnée dénormalisée. » Et là, effectivement, je vois le développeur pâlir et à la perspective de devoir travailler avec cet objet complètement paniqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ces tables, il n'y a plus ces machins. Il dit « Oui, mais tu te rends compte, je ne retrouve plus mes colonnes, mes machins. » Bah ouais, bah justement, tu crées le schéma que tu veux, c'est encore plus libre, quoi. Il était en perdition totale. Est-ce que ça rejoint un petit peu le sujet que tu évoques, là ?
Bah en fait, ça rejoint ça. Et en fait, ça rejoint surtout un truc qui, je pense, vient même en fait, de la façon dont les développeurs sont formés, de la façon dont on travaille, en fait, hein, et de la façon dont on a tendance en fait, à penser l'architecture logicielle. C'est qu'on a une certaine tendance naturelle à faire ce qu'on appelle de la MDA, c'est-à-dire en fait, la Model Driven Architecture. C'est en fait de dire, OK, dans mon système, j'ai ces entités qui sont en gros des tables, dans lesquelles j'ai ces attributs et ces relations. Donc en gros, j'ai des foreign key, j'ai des attributs qui ont un type et j'ai des tables. Et tout ça, en fait, ça se connecte bien dans un joli schéma et tout ça. Et finalement, en fait, l'applicatif ne consiste qu'à mettre par-dessus ce truc une espèce d'interface utilisateur pour interagir avec. Et donc très très souvent, en fait, ce qu'on voit, c'est que l'architecture ressemble à ça. Donc mécaniquement, dès que tu viens toucher à ce sous-jacent qui finalement en fait drive tout le reste de l'architecture, eh ben mécaniquement, les mecs, ça les met en stress. Le problème, c'est que quand on fait ça, on définit dès le début du projet le truc qui est le plus difficile à refactorer. Je pense que toute personne qui a tenté une action de refactoring s'est rendu compte que quand on commençait à toucher à la partie persistance, c'est là où les emmerdes démarrent. Et c'est pour ça que commencer son projet et baser l'architecture de son projet sur le truc qui est le plus chiant à refactorer, bah, mécaniquement, ça n'augure rien de bon pour la suite. Parce que ça veut dire qu'on a à peine commencé, que déjà on sait que là où on s'est trompé, et on s'est trompé, c'est-à-dire que je connais personne qui est capable de deviner à l'avance les réels cas d'usage que va avoir son logiciel. Mais ça veut dire que dès le début, on va galérer à adapter ce que l'on avait imaginé au début à ce qu'est la réalité. Et donc, on est déjà en train de mettre le logiciel sur une mauvaise pente.
Et tu recommandes quoi, du coup, pour péter cette approche ? Parce que je t'avoue que moi, cette approche de coller aux données, moi, j'ai pas mal utilisé Rails et le framework est centré autour de ce paradigme-là. Donc, pour moi, si tu sors du CRUD, ou en tout cas au niveau du modèle et de tout ce qui est au-dessus, je perçois plus trop forcément l'intérêt d'un framework comme Rails, en fait, qui est hyper, hyper dogmatique sur ces approches-là. Donc moi, je suis pas mal biberonné à ça et ça me va. Mais du coup, comment je fais pour sortir? C'est quoi la démarche? Est-ce que des approches comme l'archi hexagonal, c'est ça qui va me permettre d'insérer un certain découplage entre le métier et ma persistance? Qu'est-ce que tu recommandes à une équipe qui a ce stress, à part t'appeler? Comment est-ce qu'il peut franchir ce stress et aller vers de l'avant, quoi?
En fait, le problème, c'est que même si tu essaies de faire de l'archi-hexa, parce que l'archi-hexa, effectivement, ce que ça te promet, c'est d'avoir une sorte d'indépendance qui se construit entre ta persistance, on va dire, et la façon dont tu l'utilises dans ton application. Mais si tu as ce mindset, en fait, de faire, en fait, de l'architecture qui est orientée, enfin, qui est dirigée par la structuration de tes données, que tu fasses de l'hexagonal ou pas, ça ne va rien changer. Le seul truc que t'apporte l'hexagonal, effectivement, c'est que ça sera peut-être un peu moins chiant de faire évoluer le tout. En fait, le changement de mindset, en fait, il se trouve vraiment sur le fait que, au lieu d'essayer de comprendre quelle est la donnée que tu as dans ton soft et quelles sont les relations qui existent entre ces différentes données, c'est en fait de s'intéresser au comportement. C'est-à-dire, en fait, qui sont les acteurs, et je ne parle pas des acteurs au sens ACAR, mais des acteurs au sens j'ai un système de paiement, j'ai un utilisateur qui est un acheteur, j'ai un utilisateur qui est un livreur, etc. Donc, qui sont ces différents acteurs et comment est-ce qu'ils interagissent? Quels sont les comportements qu'on est censé voir apparaître dans l'applicatif? Et donc là, en fait, on va passer d'une modélisation qui est basée sur les données à une modélisation qui est basée sur les comportements. Et en faisant justement en fait, ce saut, on va pouvoir justement mécaniquement commencer à concevoir le système, non pas autour de comment est-ce que la donnée est censée être persistée, mais de quels sont les comportements attendus par l'applicatif. Et d'un point de vue business, ça fait quand même beaucoup plus sens. Normalement, le métier d'un développeur, c'est pas de produire une base access glorifiée. Parce que finalement, quand on fait du CRUD, c'est ce qu'on fait. On fait un access. C'est joli, mais la plus-value, elle n'est pas folle. Et c'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'entreprises, en fait, peuvent finalement remplacer beaucoup de leurs logiciels métiers par des Excel et que beaucoup de logiciels métiers se contentent de remplacer des Excel. Mais encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas allé sur le cran qui consiste à dire, OK, quels sont les comportements métiers que l'entreprise est censée avoir? Quels sont les comportements que j'ai pour résoudre ce problème? Et c'est que de là, en fait, que peut démarrer une vraie démarche d'architecture.
Alors, je trouve ça passionnant. Et si moi, je me mets dans la peau d'un auditeur qui ne sait pas par où commencer. Et d'ailleurs, moi, personnellement, si je devais chercher à rentrer dans ce que tu décris et aller plus vers ça, à part du DDD ou des trucs comme ça, je ne sais pas trop où je chercherais. Qu'est-ce que tu recommanderais? C'est quoi le mot-clé à chercher sur Google juste après avoir écouté l'épisode?
En fait, malheureusement, DDD, c'est déjà trop, en fait. Et je pense que pour beaucoup de gens, en fait, justement, c'est le fait que ce soit... Parce qu'il y a tellement de choses que l'on met sous le parapluie de DDD que les gens ont tendance à se perdre. C'est pour ça que vraiment, en fait, se dire « j'arrête de me concentrer sur mes données, juste j'identifie mes acteurs, j'identifie les différents comportements qui sont attendus entre ces acteurs », c'est déjà un très, très bon premier step. Et ensuite, on se rend compte, en fait, que ces acteurs, ben, ça peut devenir des objets et que les comportements entre ces objets, en fait, c'est des appels de méthode entre ces différents objets. Et juste en faisant ça, il n'y a pas besoin d'avoir lu un bouquin de fou, c'est juste changer un peu la façon dont on réfléchit le logiciel, ça change déjà beaucoup de choses. Et ensuite, la persistance, c'est quoi? La persistance, c'est de dire, ben, entre deux crashs ou entre deux requêtes, en fonction du langage que tu utilises, il faut bien être capable de garder un état. Il faut sauvegarder, en fait, si tu veux, l'état de ces différents acteurs. Et dans ce cas-là, j'ai besoin effectivement de les persister. Mais on voit bien, en fait, que là, la problématique, elle est complètement détachée. C'est-à-dire, en fait, là, je peux me dire, si je veux dénormaliser ma data, c'est pas problématique. Je prends mon acteur, je le sérialise et je le pose quelque part. Et quand j'en ai besoin, ben, en fait, je récupère cette version sérialisée, je réhydrate mon acteur avec ça et je récupère l'endroit où il s'était arrêté, je peux continuer à interagir avec lui. Et donc, on se détache beaucoup, justement, en fait, de cet attachement à la DB. Et on comprend que la cohérence à terme, ça veut dire, en fait, qu'il y a certains acteurs eh bien, qui vont être persistés avant que d'autres, potentiellement, aient été persistés. Mais ce n'est pas grave. À terme, tout le monde aura été persisté et on aura bien la bonne donnée. C'est juste qu'on n'essaye plus maintenant de tout persister au même moment, en même temps, etc. Et donc, ça aide vraiment à se défaire. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des bouquins, dans des machins. C'est vraiment juste un changement de philosophie.
Ah bah écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci beaucoup, Arnaud, pour tout ça. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur ce que tu fais, ils peuvent venir t'écouter où? Ou te lire?
Alors, me lire sur, effectivement, mon blog, principalement, lilobase.me.
Merci, Arnaud.
Merci pour l'invitation.
Quant à toi, cher auditeur, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je pense que cet épisode est tout indiqué pour une écoute commune. Le principe, c'est que tu proposes à tes potes, à tes collègues, à qui tu veux, d'écouter cet épisode à plusieurs et d'en discuter. Surtout si tu te sens concerné par les symptômes qu'a pu évoquer Arnaud, le stress pré-traumatique d'un changement de base de données. Je pense que cet épisode est tout indiqué, partagé autour de ça, et je suis extrêmement curieux de ton feedback. Tu me l'envoies sur benoît@artisandeveloppeur.fr. Qu'est-ce que ça a donné ? Est-ce qu'il y a eu des survivants ? Je te souhaite une bonne journée.